Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes et vous écoutez Radion et vous avez bien raison. Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire et nous sommes ensemble jusqu'à midi. On ne tourne pas complètement le dos à 2021 puisque aujourd'hui nous vous proposons de redécouvrir quelques-uns de nos invités de l'année précédente. Une sélection de moments émouvants, instructifs, mais aussi drôles parfois. Alors au programme, Jean-Louis Fèvre qui évoque la nostalgie de son enfance à travers son grand-père forgeron, mais aussi à travers le passage des bohémiens dans son village lorsqu'il était enfant et dont il se sentait si proche. Rencontré lors de la 14e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot, fin septembre dernier, Aurélien Bélanger, dont le dernier roman Télé-réalité paru chez Gallimard nous plongeait dans l'univers du petit écran, nous confiera que la télévision a fait d'Éric Zemmour un candidat à l'élection présidentielle. Tandis qu'un peu plus tard, le sociologue québécois et chroniqueur Mathieu Boccoté reviendra sur l'obsession raciale qui traverse l'Atlantique et qui a tendance à résister en France. Notamment en raison de l'universalisme de notre pays, de son sens de la nation et de sa culture. Vous entendrez Didier Cornaille évoquer de quelle manière ses randonnées à cheval dans tout l'Hexagone lui ont permis d'approfondir sa connaissance du monde rural qu'il s'est si bien illustré dans ses romans depuis plus de 30 ans. Nous reviendrons, grâce à Simon-Pierre Hamelin, sur l'exil français de la poétesse russe Marina Tsvetaeva au début des années 30, avant de regagner l'URSS en 1939, où elle se suicidera en 1941. Ouvrons notre émission avec une artiste bien vivante. Elle est peintre et poète installée dans Lyon, au pied de la colline de Vézelay. Et le 19 juin dernier, elle était notre invitée. Il s'agit de Sophie Lenné, venue alors nous présenter un recueil de textes poétiques, haïku zen et autres poésies sauvages. Dans l'extrait qui va suivre, Sophie Lenné évoque l'hypersensibilité qui guide sa création picturale et poétique. Sophie Lenné.
Bah disons que l'hypersensibilité, c'est un peu le défi. Je dirais que c'est le défi à surmonter. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'artistes et comme beaucoup de monde d'ailleurs, je pense aujourd'hui, je suis une hypersensible, une hypersensible. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais l'avantage énorme, c'est qu'on perçoit des choses, certaines choses simples. Et comment dire, c'est quelque chose dont on ne perçoit pas tout de suite la valeur, ou en tout cas l'impact. En tout cas, on ne sait pas vraiment. C'est tellement simple, justement. C'est l'art un peu du haïku. C'est pour ça que le haïku me plaît. C'est que c'est la forme la plus simpliste un peu de la poésie. Et je dis simpliste parce que ça peut apparaître comme simpliste.
Mais très court, mais faire court, c'est très difficile.
C'est très difficile en réalité. Si c'était compliqué, tout le monde y arriverait. C'est ça la grande phrase. Oui.
Sophie Lenné, quels sont les inconvénients d'être hypersensible ?
Alors ça, Fabrice Midal y répond très très bien. Mais je vais essayer de faire une réponse aussi moi. Les inconvénients, en fait, c'est simplement la société dans laquelle on vit. On voit assez bien que beaucoup de gens ont beaucoup de talent, écrivent des choses magnifiques, qui restent bien souvent dans le fond des tiroirs parce qu'ils n'y croient pas ou parce qu'ils ont peur d'être jugés. Voilà, un peu trop fleur bleue. Enfin, c'est souvent des choses voilà, trop sensibles. On dit toujours, ah bah, il est chiant, il est trop sensible. Bah oui, mais regarde, elle pleure tout le temps, elle est trop sensible. Décidément, on a plutôt tendance à percevoir ça comme un handicap, alors qu'en fait, c'est une vraie qualité. Et que je pense vraiment que, enfin, l'hypersensible est créatif par nature. Et voilà, il cherche toujours une issue nouvelle. Il se contente pas des acquis. Et c'est vrai que du coup, alors il peut déranger parfois, parce que ça peut être dérangeant, mais à la fois il peut aussi amener quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, voilà, il y a vraiment cette force au fond. Mais disons que l'hypersensibilité...
C'est un atout. C'est un atout.
Mais c'est une sacrée qualité, en fin de compte. C'est une sacrée qualité.
C'est pas le signe d'une faiblesse, selon vous.
Il y a une phrase qui dit c'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à un système malade.
D'accord.
Et en fait, on pourrait reprendre un peu ça. C'est-à-dire que, bien souvent, on a peur d'être vulnérable parce que tout le monde nous dit qu'il faut être fort tout le temps. Enfin, c'est un peu le message général. Il faut être fort, il ne faut pas pleurer, il faut... Voilà.
Il faut être fort, il faut être performant au travail.
Il faut être performant, il faut être productif surtout.
Oui.
Alors, c'est
oui.
Terrible.
Oui.
Mais bon, on n'est pas... Réduire l'humain à une main-d'œuvre, c'est quand même assez catastrophique. Quoi.
Oui. Côté, vous, Sophie Lainée, vous avez fait le choix d'un métier où on ne s'enrichit peut-être pas forcément... financièrement, ça doit être difficile de vendre ses œuvres, même si elles sont très jolies. J'en ai vu quelques-unes sur Internet.
Disons que le problème qu'on a, c'est pas forcément l'enrichissement, c'est la régularité. Parce qu'on peut très bien vendre plusieurs œuvres à une personne qui est séduite par le travail et puis plus rien vendre pendant 4 mois ou 6 mois. Enfin, je veux dire, voilà, c'est cette non-régularité qui fait que ce n'est pas forcément évident comme engagement.
En tout cas, sur la couverture des Haïku Zen et autres poésies sauvages, il y a cette citation, elle est de vous, hein, « Enlever cette cuirasse invisible qui me rend hermétique à la beauté du monde ».
Voilà, c'est ça le talent de l'hypersensibilité en fait.
C'est
ça,
briser l'armure pour...
Oui. Mais du coup, ça implique...
Mais pour s'ouvrir.
Voilà, oui, mais ça implique de s'ouvrir à tout ce qui est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir, on ne peut pas prendre que l'agréable et jeter le reste. Donc ça implique une ouverture qui demande un peu de courage, un peu d'audace.
Alors, juste avant la pause musicale, nous disions que les haïkus et les textes de Sophie Lainée étaient des textes courts mais consistants et qu'ils sont, je vous cite Sophie, « destinés à désaltérer les soifs de liberté et nourrir certaines réflexions ». Alors Sophie Lainée, je vais vous demander, s'il vous plaît, de partager avec celles et ceux qui nous écoutent quelques-uns de vos haïkus pour les mettre en appétit, d'autant plus que l'heure de l'apéritif approche et il est bientôt midi. Alors, quelques nourritures spirituelles des haïkus de notre invitée Sophie Lainée.
Silencieusement, la danse molle du papillon, happée par le vent. L'odeur de la terre, après les torrents de pluie, le chant des grillons. Le couple en kayak, quand ramer est inutile, manque de profondeur.
J'en lis un, Sophie.
Allez-y.
Feuilles séchées sur l'arbre, pourquoi rester accrochées alors qu'elles sont mortes? L'autoroute de nuit, d'un côté coule le flot d'or, de l'autre, les rubis. Flore éclaboussante au bord de la rivière, tous ces vers sont justes. Sophie, d'autres textes,
oui.
S'il vous plaît.
Voler des cerises? Non, ce n'est pas un péché, c'est un cerisier.
Alors c'est plutôt à vous de le lire, ce haïku a pour titre « La peinture est un vrai don ».
Alors ça, c'est pas un haïku.
C'est pas un haïku, c'est dans...
C'est un plat de résistance.
C'est un plat de résistance.
Voilà,
vous permettez, Sophie Lainée,
oui,
je le lis pour
sûr.
Vous.
Allez-y.
Qui m'a sauvé la vie, or je ne lui dois rien, car un vrai don, c'est toujours gratuit.
Oui. Et là, donc, je peux reprendre avec un autre texte dans la série Plat de résistance.
Oui.
Entre l'humiliation et l'humilité. Dans les deux cas, les genoux sont à terre. Seule la direction du regard change. Humilié, je regarde le sol. Humble, je regarde le ciel.
L'humilité, c'est important, Sophie, pour vous, parce que nous sommes dans une société un peu tape à l'œil, où on veut toujours exister de manière matérielle en ayant la plus grosse voiture, le dernier téléphone portable, par exemple. On est dans une société du paraître et l'humilité. C'est quoi l'humilité pour vous en tant qu'artiste peintre et auteur de haïku à Saint-Père, au pied de la... colline éternelle et de Sainte-Marie-Madeleine.
Mais au pied de la colline, pas au sommet. C'est ça l'humilité. fait. C'est-à-dire, pour moi, l'humilité, c'est vraiment, comment dire, savoir rester à sa place. C'est-à-dire avoir autant conscience de nos limites que de nos dons. Et d'être ajusté, on va dire. Et pour moi, l'humilité, bah, c'est le passeport. Justement, c'est ce qui me donne accès à cette simplicité, en fait, qui me permet d'aller à l'essentiel. L'humilité, c'est vraiment... voilà, oui, c'est rester à sa place, ça c'est sûr. Et c'est justement, voilà, par exemple, c'est ne pas confondre le moyen et l'absolu. C'est-à-dire que l'art, la poésie, la musique, la cuisine, etc., ce sont des moyens. Pour moi, ce n'est pas l'absolu. Et je me suis trompée pendant quelques années parce que je l'ai poursuivi comme un absolu pendant longtemps, jusqu'à cette conférence de Jean-Yves Leloup qui m'a révélé cette vérité qui a tout changé. Et donc l'absolu pour moi, c'est la vie, parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Et donc voilà, et c'est ce qui a signé mon engagement, c'est-à-dire au profit du vivant. Et c'est ce qui, voilà, c'est mon fil rouge, on va dire, dans mon travail.
Le terme est fort, un engagement.
Oui, un engagement, tout à fait. Ben, un engagement parce que, déjà, je vous le disais tout à l'heure, je remplis des carnets, j'ai tous les jours mes carnets sur moi, donc j'ai pas de jour de congé. C'est-à-dire que quand on... Voilà, c'est comme un engrenage, on met le pied dedans, c'est fini, quoi. Je veux dire, on peut pas revenir en arrière. Et quelque part, ben, on reçoit tous les jours, on a cette acuité qui fait que moi, je suis obligée de noter des choses. Enfin, je suis obligée de... Voilà. Je vis comme ça, on va dire. C'est plus qu'un travail, c'est une façon de vivre.
C'était un extrait du Wagon Livre diffusé le 19 juin 2021 avec Sophie Lenné pour son recueil de poèmes Haïku Zen et autres poésies sauvages paru aux éditions L'âme du rasoir. Si vous souhaitez vous procurer ce recueil de textes, vous pouvez le commander via internet sur le site de la librairie L'Or des Étoiles. C'est la librairie de Vézelay. Vous avez donc très facilement possibilité de vous procurer le recueil de textes de Sophie Lenné, tout en sachant que fin décembre dernier, Sophie Lenné a fait paraître un nouveau recueil qui a pour titre « Petite chronique du très ordinaire, des poèmes sauvages ». Et je pense que nous aurons l'occasion et le plaisir de retrouver au printemps Sophie Lenné devant notre micro. Vous êtes bien sûr Radion, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, première virgule musicale. Et on se retrouve juste après avec un extrait d'une émission au cours de laquelle je recevais Didier Cornaille.
Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart, you look happier. Saw you walk inside a bar, you said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby, if you're moving on with someone new. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth, that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room, everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody need you like I do. Deserve you, but my darling, I am
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Rétrospective de l'année 2021, aujourd'hui dans votre émission littéraire, je vous propose de réentendre une émission diffusée le 13 mars de l'année dernière sur Radion, émission au cours de laquelle je recevais le romancier Didier Cornaille à l'occasion de la parution de son 30e roman aux presses de la Cité, Gentil Blandine. Alors Didier Cornaille est originaire du Nord, il est fils d'agriculteur, journaliste spécialiste du monde rural au Figaro Agricole, et il s'installe dans le Morvan en 1975. Il devient ensuite journaliste indépendant et publie une collection de guides de randonnée à cheval dès 1979 chez Solar. Après la publication d'ouvrages consacrés à l'histoire de la Bourgogne, d'essais mais aussi de carnets de voyage, Didier Cornaille se lance dans la fiction. Paru en 1991, son premier roman, Le vol de la Buse, reçoit le prix Sully Olivier de Serres. À l'heure actuelle, en ce début d'année 2022, Didier Cornaille est l'auteur de plus d'une trentaine de romans ayant pour cadre le Morvan. Mentionnons par exemple Les chats de Chamasson ou encore Le chemin de la Ronceraie. Et concernant le premier roman de Didier Cornaille, Le vol de la Buse, sachez qu'il a été réédité à l'automne dernier par les presses de la Cité. Et bien justement, tout de suite, je vous propose d'entendre Didier Cornaille dans ce wagon livre de mars 2021. Didier Cornaille qui revient sur les guides de randonnée qu'il a fait paraître aux éditions Solar. Didier Cornaille.
Une des façons que j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer, de découvrir le monde rural. Bon, au Figaro Agricole, on circulait à travers toute la France, très rapidement. Effarant, le nombre de kilomètres qu'on faisait par mois. Notre sujet, c'était le monde rural, l'agriculture, etc. Mais c'était assez superficiel, tellement il fallait faire vite. Hein. Puis ensuite, je me suis retrouvé journaliste au niveau régional, Bourgogne. Et là, j'étais beaucoup plus proche des gens. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir ces nuances d'une région à l'autre. Et
la cerise sur le gâteau.
Exactement, la cerise sur le gâteau, le terme que je cherchais, ça a été ces 10 années que j'ai passées après avoir décroché un éditeur qui s'appelle Solar pour faire des guides de randonnée. Et là, nous avons décroché, mon cheval et moi, puisque pendant 10 ans, j'ai circulé à travers tous les chemins de France avec mon cheval, tout à cheval, et nous débarquions dans les pays, comme je dis souvent, par la porte de derrière. On débouchait par le chemin, le vieux chemin au coin duquel il y a une croix de bois qui a été plantée là. Et je peux vous assurer que plusieurs cavaliers qui traversent un village, le village est parfaitement indifférent, se détournent même. Un seul cavalier, tout le monde se tourne vers lui. Qu'est-ce qu'il fait là tout seul? S'il est tout seul, c'est qu'il y a une raison. C'est que...
La bonne cause.
Il n'est pas là simplement pour discuter avec les copains. Il regarde le pays. Et le dialogue s'établit. Et là, j'ai eu un dialogue avec les gens de toutes ces régions que j'ai traversées, qui est tout à fait exceptionnel, fantastique. Et j'en garde un souvenir. Donc pour moi, ma vie, c'est trouver de goût. Je l'ai fait par goût, bien sûr. Mais en même temps, les événements ont fait que j'ai toujours baigné dans ce monde rural et je l'ai toujours beaucoup, beaucoup apprécié.
Alors, vous ne vous interdisez aucun genre, notamment un voyage en 2000. Alors, le livre sort en 2004. Vous découvrez ce qu'on appelle les Esquimaux familièrement, mais en fait, il faut dire...
Non, le terme Esquimaux, il est dépassé. C'est pas qu'on les appelle familièrement, c'est que c'était un mot qu'on a utilisé pendant longtemps, jusqu'au jour où on s'est aperçu que c'était un mot trivial chez eux, littéralement. Ce sont les Inuits.
Et là, vous en avez fait un carnet de voyage.
Oui, grâce à Gérard Gauthier, l'éditeur de mon premier roman, Le vol de la buse, j'ai eu l'occasion de faire un voyage assez fantastique, tout seul, là-haut, chez les Inuits, grâce au ministère des Affaires étrangères qui m'avait accordé cette bourse. Et je suis resté 4 mois à aller d'un pays à l'autre. Il y a 24 000 habitants sur un territoire qui est aussi grand que la France. Ça donne une échelle. Et c'était pour moi le début d'Internet. En 2004, l'Internet n'était pas encore tellement développé. Et j'avais réussi à m'équiper de façon à envoyer mes impressions à tous mes amis, à tous les gens qui sont intéressés. Et c'est effarant le nombre de gens que ça intéressait d'ailleurs. J'en étais sidéré moi-même. Tous les jours, j'arrivais à envoyer un petit compte-rendu de mon... C'était mon journal.
Une petite chronique quotidienne, une sorte de blog en fait.
Maintenant, on appellerait ça un blog. Je pense que c'était plutôt un journal à l'époque. Peu importe. Et c'est effarant le nombre de gens qui ont réagi très fort. Et un beau jour, je reçois un mail, alors là, un courriel, comme on dit maintenant, d'un certain Gérard Gauthier, donc l'édition de l'Armançon, me disant « Je publie ». Qu'est-ce qu'il publie ? Je publie quoi ? Je lui dis « Mais qu'est-ce que vous publiez ?»« Mais je publie vos petits comptes rendus de tous les jours, ça fait un carnet de voyage extraordinaire. » Et c'est lui, donc, qui a eu l'idée de cette publication. Ce carnet de voyage a dû paraître en 2005. Sous le titre
Nouvelles Inuits.
Les Nouvelles Inuits, bien sûr. Les Nouvelles Inuits, pendant que je préparais un roman, qui était prévu dès le départ d'ailleurs, hein, qui lui est paru chez Anne Carrière en 2006, si je me souviens bien, et qui s'appelle Inukshuk. Alors Inukshuk, c'est un mot inuit qui veut dire l'homme de pierre.
Et qui a une signification particulière dans la civilisation
oui,
des Inuits.
C'est à la fois des bornes et des lieux de culte, les Inuits, les Inukshuk, qu'on retrouve un peu partout là-bas. Et c'était souvent, ce sont des constructions schématiques en pierre, toutes similaires, ils arrivent à ce qu'elles se ressemblent toutes. C'est un homme dressé, les bras en croix. En fait, à l'origine, ces Inukshuk devaient faire peur aux rennes, aux caribous, pardon, caribous, là-bas sont les caribous, c'est la même chose, mais c'est le nom canadien, aux caribous qui chassaient, ça devait les contenir sur les endroits où ils voulaient les emmener, parce qu'on voyait vaguement une silhouette humaine, et les caribous n'y allaient pas, bien sûr. Et peu à peu, l'Inukshuk est devenu une sorte, peut pas dire de monument religieux, c'est trop fort, mais on vénère tout de même pas mal les Inukshuk, il y en a partout, et c'est devenu un symbole du peuple inuit, comme nous on a notre coq un petit peu, si vous voulez, ça se ressemble.
C'était le romancier Didier Cornaille, extrait d'un numéro de Wagon Livre diffusé sur l'antenne de Radion le 13 mars 2021. Nous reprenons la suite de notre rétrospective. Après une nouvelle pause musicale, vous pourrez alors réentendre Jean-Louis Fèvre, qui lui habite dans la Nièvre, alors que Didier Cornaille réside en Saône-et-Loire, à Anneau. Jean-Louis Fèvre, lui, habite dans la Nièvre, à Aligny-en-Morvan. Aligny-en-Morvan, c'est peut-être le nom d'un village qui vous parle, parce que si vous avez bonne mémoire et une culture suffisante, eh bien cela vous rappellera Jean Genet, puisque le jeune Jean Genet, enfant de l'assistance publique, a passé une grande partie de son enfance dans ce petit village, Aligny-en-Morvan, pas très loin du lac des Sétons. Wagon Livre revient juste après cette pause musicale, rétrospective 2021, et puis... Bien sûr, je vous rappelle que si vous avez manqué le début de cette émission, vous la retrouvez sur notre site d'archives via ce formidable outil qu'est Internet, www.yannickpetit.fr.
Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirais que tu m'aimes pas et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aime être contre toi? Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras. Avant toi, je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi.
dit trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. C'est trop d'efforts, ça me dévore et y'a rien qui change, sauf le décor. J'ai plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pour quoi? Pour me mettre dans me voir. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois. Mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le 11 décembre dernier, sur l'antenne de Radion, dans votre émission littéraire, j'avais le plaisir d'accueillir Jean-Louis Fèvre. Jean-Louis Fèvre est écrivain, poète et peintre. Il vit dans le Morvan. Il est l'auteur notamment de la trilogie des loups, Les saisons de Solange, Les cousines et L'esprit de la montagne. D'ailleurs, après le passage dans notre émission juste avant Noël, l'année dernière, Jean-Louis Fèvre a fait paraître un nouveau roman intitulé L'envol du pic noir. C'est un roman qui raconte la vie d'une famille modeste sous le Second Empire. Et dans l'extrait que j'ai sélectionné de diffuser aujourd'hui, vous allez entendre Jean-Louis Fèvre revenir notamment sur le point de départ personnel de la nouvelle qui donne son titre à son recueil, Poussière d'enfance, c'est-à-dire que Jean-Louis Fèvre évoque son grand-père forgeron qui est devenu, dans la nouvelle Poussière d'enfance, le héros de ce texte. Jean-Louis Fèvre.
Pour revenir au recueil de nouvelles, Poussière d'enfance, la dernière, Poussière d'enfance, donc, est très personnelle. C'est le souvenir de mon grand-père. Et ça m'a marqué, ce souvenir, parce que ce grand-père, qui était forgeron, écrivait, notait sur un cahier des choses. Et ça m'avait touché dans le sens où je me demandais, un homme si robuste et si manuel pouvait arriver à écrire.
Alors, le grand-père dans la nouvelle Poussière d'enfance, c'est un homme effectivement très robuste, sorte de géant aux yeux de l'enfant qui admire ce grand-père. Un enfant qui a été épargné en fait par le malheur et qui, à l'âge de 12 ans, apprend devant un grand-père alité qu'il est malade. D'ailleurs, il est question des mots sans couleur du docteur. C'est quelque chose de très personnel aussi.
Oui.
La maladie du grand-père, vous l'avez vécu?
Bien sûr, je l'ai vécu et je l'ai vécu douloureusement parce que j'étais très jeune lorsqu'il est décédé, et ça m'a beaucoup marqué, cette perte du grand-père que j'admirais.
Et donc vous avez été, comme le petit garçon de la nouvelle, l'héritier de ce cahier noir qui était griffonné de l'écriture du grand-père. Vous les avez lus ces textes?
J'ai des cahiers qui me restent de lui. Et en fait, je ne savais pas qu'il avait écrit autant de choses.
Mais c'était de la fiction ou était-ce un journal intime ?
C'était un journal intime et il notait dans ses cahiers les événements de la famille, les événements du village et aussi les choses anodines, le temps qu'il fait, des choses comme ça.
Et vous n'avez pas tenté de l'éditer ? Ça a un intérêt ou pas ?
Si, on m'a dit que ça serait bien que ça soit réuni en livre.
Mais les écrits de votre grand-père couvrent les années 40, 50 ?
50, voilà. Donc c'est les années 49, 50, 55, jusqu'à 55.
Et vous avez mis en exergue une phrase que vous avez fait paraître dans Parloir des gouffres. « Ô grand-père, tu es déjà loin de ta mort. Suis-je dans le feuillage de l'arbre qui pousse en toi ?»
Oui, parce que j'ai écrit un recueil de phrases, d'aphorismes, qui s'appelle « Parloir des gouffres ». Et donc, cet aphorisme, là, cette pensée, fait partie du Parloir des gouffres que j'ai écrit au début.
L'enfance est très présente dans Poussière d'enfance et autres nouvelles, et pour cause, vu le titre, Poussière d'enfance. Finalement, si l'on veut dépoussiérer notre enfance, on tombe dans la nostalgie. Êtes-vous nostalgique, Jean-Louis Febvre ?
Peut-être un peu, quand même. Peut-être un peu, mais j'évite. Et ces souvenirs que j'ai, en fait, c'est des souvenirs que je traite avec bonheur et non pas avec tristesse et nostalgie.
Or, il y a beaucoup d'errants dans les nouvelles, mais aussi que ce soit la trilogie des loups, hein, ces bohémiens vont de village en village et ils ne traversent pas que le Morvan, ils vont aussi en pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer. Hein. Toujours chez vous, ces contrastes entre finalement Méditerranée, la mer, le maritime, les monts un peu noirs du Morvan, la canicule, la froidure de l'hiver. Je dirais qu'il y a une écriture de grands contrastes.
Oui.
Pour notre plus grand bonheur, d'ailleurs.
Tout à fait. Et l'errance, pour moi, est très importante parce que c'est Romain Michel que j'ai observé quand j'étais enfant. J'aurais voulu partir avec eux parce que c'est des errants, mais des hommes libres qui s'accaparent la nature, qui s'accaparent les étoiles, les saisons. Et l'errance, pour moi, c'est la liberté.
Et puis, il y a tout le monde des gitans dans la trilogie des loups, ces gitans que vous avez vus donc défiler dans votre jeunesse, dans les petits villages de Lyon ou du Morvan.
Oui, ils traversaient avec leurs roulottes tirées par les chevaux. Ils traversaient les villages et ils s'arrêtaient sur les pâtis communaux où là, ils faisaient un feu. Ils tressaient des paniers et les femmes allaient dans le village pour vendre les paniers. Mais je me souviens que j'allais les voir autour de leur feu, là. Je m'approchais un peu d'eux et j'avais, je ne sais pas pourquoi, je me sentais presque comme eux.
Alors vous êtes-vous rêvé gitan ?
Je ne sais pas pourquoi je parle des gitans avec enthousiasme et avec précision quand même. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être dans une vie antérieure, j'étais gitan.
Ces hommes de nulle part, comme vous les appelez dans oui. La trilogie des loups. Et dans la trilogie, vous écrivez « Le voyage et la raison de vivre du peuple gitan. Par tous les temps, sous toutes les latitudes, ils se déplacent ainsi depuis des millénaires avec une conscience aiguë de la liberté. Et vous montrez aussi à chaque fois le mauvais accueil qui est fait par les Morvandiaux, qui ont beaucoup de suspicions à l'égard de ces Romanichels, de ces Manouches, ces bohémiens. Je vous cite, considérés comme des voleurs de poules, des jeteurs de sorts. On dit qu'ils apportent avec eux le malheur et l'orage. On raconte qu'ils pactisent avec le diable et les forces occultes.
Oui, parce que ces gens-là, qui ne sont pas comme les autres, bien sûr, les paysans, les habitants sédentaires les accueillaient souvent très mal. Parce que on disait que c'était des voleurs de poules, mais pas, bon, quelquefois peut-être, mais c'était pas bien méchant de voler une poule qui est égarée.
Jean-Louis Fèvre, juste avant la pause musicale, vous parliez du vent, de l'influence des éléments naturels, sans doute, sur les comportements des humains. Nous parlions de peinture parce que vous êtes également peintre. Dans ce petit village du Morvan où vous vivez une retraite paisible et bien occupée, Aligny en Morvan. Et peut-être que pour les auditrices et auditeurs, Aligny en Morvan fait penser à un écrivain qui y a passé un petit bout de sa jeunesse quand même.
Oui, tout à fait. Jean Genet, qui a vécu les 13 premières années de sa vie à Aligny. Il a été abandonné par sa mère à Paris. Et à 6 mois, il est arrivé dans le Morvan chez des parents nourriciers, Charles et Eugénie Régnier.
Où il a passé une enfance heureuse, paysanne d'ailleurs.
Il a passé une enfance heureuse, paysanne, mais il a été quand même, il a subi des humiliations. Alors je peux raconter une petite anecdote. Le maître d'école avait demandé aux élèves de parler, dans une rédaction, de parler de leur maison, de raconter leur maison. Le texte de Genet, de Jean Genet, était très beau. Et le maître a lu la rédaction à la classe. Mais les enfants, tout de suite, ont dit à Jean Genet, ta maison, c'est pas ta maison. Tes parents ne sont pas tes parents. Et Genet, enfant sensible, a reçu ça comme une humiliation qui a marqué sa vie. Parce qu'il s'est senti minoritaire parmi les autres. Et en fait, c'est pour ça que plus tard, il a défendu les minorités. Sur sa maison, il y a une plaque que François Mitterrand a dévoilée en 1985, je crois. J'étais présent parce que j'ai suivi Jean Genet... L'actualité de Jean Genet avec ferveur. Et cette plaque, on l'a enlevée parce qu'actuellement, la commune fait une maison de retraite dans la maison où a vécu Jean Genet. Mais la plaque sera à nouveau posée sur la maison, j'y tiens.
C'était Jean-Louis Fèvre, écrivain, poète et peintre, pour évoquer son recueil de nouvelles intitulé Poussière d'enfance. Je vous rappelle que son dernier roman, paru à la fin de l'année dernière, a pour titre L'envol du pic noir et qu'il s'agit d'un roman qui raconte la vie d'une famille modeste sous le Second Empire. À toutes et à tous, merci d'être avec nous. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire. On marque un nouvel intermède musical et ensuite vous entendrez le romancier Aurélien Bélanger, avec lequel j'avais eu le plaisir de m'entretenir lors de la 14e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon. C'était lors du dernier week-end de septembre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous revenons juste après ça.
T'en sais rien, oh, t'en sais rien. Jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien. Mais t'en sais rien, oh, t'en sais rien. Tu tu souris comme une image. Est-ce au diable ou au saint? Le faux comme une flèche qu'on décoche. Blesse ceux qui tenteraient une approche. Mais jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
L'année dernière, Aurélien Bélanger a fait paraître aux éditions Gallimard un roman intitulé « Télé-réalité ». C'est un roman dans lequel Aurélien Bélanger s'attaque à la télévision quand elle a basculé au tournant du XXe siècle pour devenir l'arme du cynisme et de l'obscénité. Alors, j'avais longuement pu échanger avec Aurélien Bélanger, qui est d'ailleurs particulièrement bavard, donc je n'ai retenu qu'une séquence assez brève de cet échange, parce que, ayant abordé le rapport entre la télévision et les hommes politiques, Aurélien Bélanger s'est spontanément mis à parler de Éric Zemmour, qui fin septembre 2021 n'était pas encore candidat déclaré à l'élection présidentielle. Et voici ce qu'Aurélien Bélanger en disait alors.
Elle est encore en train de nous fabriquer un candidat présidentiel sous nos yeux, en fait, la télévision. Éric Zemmour est totalement une créature, n'est pas une créature de librairie, c'est vraiment une créature télévisuelle. Donc elle est encore puissante, oui.
Et ça, comment vous regardez cette création de créatures politiques qu'est Éric Zemmour? Parce que tout homme politique a besoin de la télévision.
Éric Zemmour, c'est vraiment la figure gramscienne pure de l'époque n'arrive pas à accoucher de quelque chose, et donc elle nous, dans cet entre-deux, dans ce clair-obscur, elle fabrique des monstres, en fait. Éric Zemmour est le nom d'une mauvaise question, d'une mauvaise réponse, est une pure imposture intellectuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi cette imposture intellectuelle séduit? Parce qu'en fait, incontestablement, le type séduit, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant à analyser. Par exemple, à titre personnel, j'ai longtemps bien aimé regarder Zemmour sur CNews. Alors que je savais qu'il était fasciste, je savais que ce qu'il disait était faux, je savais qu'il était un danger pour la démocratie, je savais tout ça, mais j'étais quand même attiré par cette espèce de face de méduse pétrifiante, d'une sorte de dialectique figée, en fait. Et c'est ça, Zemmour, en fait, il y a que des outils marxistes qui peuvent rendre compte, en fait. Il est une stase dans une sorte de dialectique comme ça, fluide, de l'air du temps. Il y a un moment où ça a bloqué, en fait. et pourquoi est-ce qu'on regarde le mauvais objet? Voilà, pourquoi est-ce qu'on regarde les boucs émissaires qui nous désignent? Pourquoi est-ce que il n'en est que plus dangereux? Parce qu'en fait, très rapidement, il va passer de fasciste d'extrême droite infréquentable à comme a pu l'être Hitler en son temps. Il va apparaître comme une solution rationnelle pour le capitalisme. Et c'est là où il est intrinsèquement dangereux, c'est qu'il est à la fois totalement fasciste et en même temps, comme ça fait 20 ans qu'il exerce au Figaro, il est un peu de centre droit. Disons bah,
il a eu pas mal de soucis, il a eu des procès.
Non, mais je veux dire, il est de centre droit dans ses habitudes et dans ses fréquentations. Marine Le Pen ne fréquente pas les journalistes. Marine Le Pen ne fréquente pas les grands patrons ou quelques-uns. Éric Zemmour, ça fait 20 ans que c'est son métier. Donc en fait, il est totalement fasciste, mais il apparaît, et il commence à apparaître, et c'est pour ça que cette campagne est dangereuse, il commence à apparaître comme un candidat possible de droite classique. Donc voilà, mais bon, ça nous emmènerait trop loin.
Aurélien Bélanger, enregistré lors de la 14e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot. C'était le 26 septembre de l'année dernière. Cette fois-ci, on change de thématique. Mais j'avais tendu mon micro au sociologue et chroniqueur québécois Mathieu Bock-Côté lors du Salon du Livre de Noisy-le-Roi en région parisienne. C'était début octobre de l'année dernière. Mathieu Bock-Côté était venu y présenter son essai « La révolution racialiste et autres virus idéologiques » disponible aux presses de la Cité. Et Mathieu Bock-Côté revient dans l'extrait que vous allez entendre sur l'obsession raciale qui traverse l'Atlantique et qui a tendance à résister en France. Mathieu Bock-Côté.
L'idée vient en France et la France peut résister. C'est-à-dire qu'on voit tous ces concepts-là se normaliser. On a vu Emmanuel Macron lui-même utiliser par exemple le concept de privilège blanc, par exemple. Mais la France a ses propres problèmes. Hein. C'est-à-dire par exemple une espèce d'immense pudeur quand vient le temps de nommer toutes les dimensions de l'insécurité. Une immense pudeur quand vient le temps de parler des effets de l'immigration massive, de la question démographique aujourd'hui. Mais la question woke s'ajoute à cela. Pourquoi? Parce que l'idéologie woke cherche à exciter une forme de conscience victimaire chez les populations issues de l'immigration en leur faisant croire qu'elles sont structurellement l'équivalent des Noirs américains. Alors les Noirs américains ont des problèmes, il n'y a pas de doute là-dessus, une question raciale inscrite dans l'histoire américaine. Mais il n'y en est pas de même en France, il n'y en est pas de même en Europe occidentale. Or, l'idéologie woke cherche en fait à créer un sentiment de ressentiment victimaire et quelquefois conquérant chez les populations issues de l'immigration en les décourageant de s'assimiler et en présentant même leur assimilation comme une forme de trahison. Donc c'est la trahison raciale, c'est l'accusation qui est lancée lorsqu'en disant arabe de service, noir de service. Donc si une personne issue de l'immigration qui s'est assimilée à la nation française sera accusée d'avoir trahi son groupe racial. Alors on voit jusqu'où cette logique peut mener. Donc mettez l'idéologie woke, la mutation démographique et la pudeur française à nommer certaines réalités, c'est grave. Ensuite, je pense que la France, justement par son sens de la nation, par son refus assez naturel de la logique racialiste, par son sens de la liberté d'expression, par son amour du débat, par le sens qu'elle a du politique, par les mœurs françaises, je pense que la France a dans son ADN culturel de quoi résister à cette idéologie. Encore doit-elle la nommer et la prendre au sérieux.
Je vous rappelle le titre de l'essai de Mathieu Bock-Côté que vous venez d'entendre. Essai disponible en librairie aux presses de la Cité et qui a pour titre « La révolution racialiste et autres virus idéologiques ». Juste après la dernière pause musicale que nous allons entendre d'ici quelques secondes, vous réentendrez un extrait d'un wagon-livre diffusé le 8 mai de l'année dernière avec Simon-Pierre Hamelin, qui était alors en résidence d'écriture dans l'Yonne, à la maison Jules Roy à Vézelay. Il évoquera pour nous l'exil français de Marina Tsvetaeva, la grande poétesse russe née en 1892 et qui est morte en 1941 en choisissant le suicide. On se retrouve dans quelques minutes. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire, et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Silence, offense, il y a des torrents dans les rues de nos enfances. Mais ça ne se voit pas. Tarder, puis parler, casser les murs des prisons qu'on se fait. S'évader vers soi. improviser, savoir tenir. Est-on jamais préparé au pire? Le jour d'après, fleurir. Je m'en remets à nos lendemains. On renaît dans nos lendemains. Tu vois, quand vient la peine, le temps l'éteint. Je m'en remets à nos lendemains.
Votre émission littéraire.
Un dernier extrait d'émission pour clore cette rétrospective 2021. Il s'agit d'un extrait d'un wagon livre diffusé le 8 mai de l'année dernière avec Simon Pierre-Amelin, que j'avais alors rencontré alors qu'il était en résidence d'écriture dans Lyon à la Maison Jules Roy, au pied de la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Alors qui est Simon Pierre-Amelin ? Il est né à Paris en 1973. Jeune adulte, il séjournera en Inde et en Russie post-soviétique. Et depuis plus de 10 ans, aujourd'hui encore à ce jour, il vit au Maroc, à Tanger précisément, où il dirige la mythique librairie des colonnes. Actuellement, il se consacre à l'écriture d'un nouveau roman dont l'action se situe entre la Russie et le Cameroun. Alors en 2013, il a fait paraître aux éditions de La Différence un roman intitulé « 101 rue Condorcet-Clamart » dans lequel il raconte l'exil français de la poétesse russe Marina Tsvetaeva qui s'est installée à Clamart au début des années 30 et qui vivait alors dans une sordide misère. Simon Pierre-Amelin.
C'est la misère pour toutes les familles russes. C'est la misère pour toute famille, la très grande majorité des familles immigrées. Derrière le personnage de Tsvetaeva, il y a l'image très universelle de l'exilé, de l'immigré. C'est cette histoire que ça raconte, oui. Finalement.
Parce que finalement, elle vit un peu comme une recluse dans cette minuscule cuisine qui sent, vous l'écrivez, le chou rance, le thé et le tabac froid. Et surtout, le drame alors, de ces Russes blancs arrivés en France, c'est que quelque part, ils sont mal jugés par les Français et même entre eux, quelque part, il y a des suspicions. Elle ne s'est jamais sentie bien nulle part. C'est, me semble-t-il, un des drames de sa vie.
Oui, cela dit, c'est la, elle le disait elle-même, c'est la place du poète que d'être un petit peu à l'extérieur de toute chose. Elle disait elle-même qu'elle n'appartenait pas à sa génération. Alors c'est une génération martyr, c'est la génération de Mayakovsky, de Mandelstam, de beaucoup de...
Pasternak aussi, Pasternak, qui a beaucoup compté pour elle.
Qui a compté, a puisqu'elle a, elle l'a connu, et elle a eu une merveilleuse correspondance à trois avec Pasternak et Rilke.
Oui, vous parlez de martyr, Simon-Pierre, je rebondis là-dessus, puisque vous citez Mayakovsky. Alors Mayakovsky, lui, il est resté fidèle tout de même à la Russie rouge, la Russie des Soviets, et quelque part, il s'est tiré une balle dans le cœur, il s'est suicidé.
On l'a suicidé. Après, ça dépend des versions, mais Mayakovsky disait, parce qu'il avait évidemment une certaine lucidité, il avait fait un choix... que de rester en Russie et de devenir une espèce de poète officiel. Mais il disait qu'il aurait adoré écrire de la poésie lyrique, mais qu'on l'a obligé au contraire, et qu'il marchait sur le fil tenu de sa chanson. Donc ça, c'est le fil vraiment avec lequel on se pend. Hein. C'est, oui. Il avait déjà annoncé sa disparition tragique. Personne n'a été, de cette génération-là, personne n'a été épargné.
Mais vous parlez de la mort, justement. La mort est très présente aussi dans la vie et dans l'œuvre poétique de Marina Tsvetaeva.
Oui, parce que là, c'est peut-être... le rôle finalement du poète que d'intégrer la naissance et la mort de façon un peu harmonieuse. Et puis elle a connu de façon personnelle des tragédies qui sont liées à la Révolution, mais pas simplement. Elle a perdu l'aînée de ses filles alors qu'elle était enfant dans un orphelinat de la banlieue de Moscou. Enfin voilà, c'est
oui,
des gens.
Oui, la petite Irina, mais qui est morte suite à la grande famine. Et cet enfant n'avait que 3 ans, en fait.
3 ou 4 ans. Et qu'elle a, avec la conscience, c'est le choix de Sophie. C'est-à-dire qu'elle a dû choisir entre ses deux filles.
Alors, on parle de la mort. Bien sûr, la mort, c'est la perte d'un être aimé, d'un être cher. Mais ce qui est terrible aussi pour cette grande poétesse russe, c'est que, et vous l'écrivez, elle évoque, elle pense à la Russie. C'est pas, elle est omnubilée, mais elle n'a pas spécialement, en tout cas dans votre roman, elle n'a pas spécialement envie d'y retourner. Parce qu'elle est comme magnétisée par son travail d'écriture dans sa minuscule cuisine, cherchant à remplir ces fameux cahiers bleus qui s'accumulent un peu comme des mâles s'entassent, voilà. Et justement, la Russie est présentée comme un pays qui, je vous cite, hein, un pays qui n'existe pas et ne sera jamais plus. C'est la perte totale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renouer avec cette Russie.
On peut pas renouer avec cette Russie parce que dans toute sa famille, la famille Efron, tout le monde veut rentrer en URSS, sauf elle, puisque elle n'a pas de patrie. Elle est par définition apatride, et de fait d'ailleurs. Un jour, Rilke lui écrit qu'il vient de lire une très très mauvaise traduction d'une des poésies de Marina. Et Marina lui répond, mais il ne peut pas y avoir de mauvaise traduction de ma poésie, puisque ma poésie est déjà une traduction de mon feu intérieur. Et elle dit, je suis poète... Je ne suis pas une poétesse russe. Je suis justement poète pour ne pas être russe. Ou pour être russe, mais toutes les autres nationalités. Et elle vit dans un pays qui n'existe pas, parce que c'est un désert d'ailleurs, une banquise. Hein, c'est un endroit, le lieu de la patrie de l'écrivain, c'est quelque chose de où il n'y a rien. C'est là qu'on peut trouver les mots. C'est dans les déserts. Et elle explique que finalement, son pays, c'est celui... Enfin, le pays où elle voudrait vivre, c'est celui où elle pourrait écrire et être éditée. Ce qui, dans le cas de l'URSS et de la France, pour des raisons différentes, est absolument impossible pour elle. C'est terrible parce que, à la fois, Marina Tsetsaïeva, dans sa pratique de la poésie, elle était, par l'émigration russe, absolument mise de côté parce que considérée comme ayant des idées politiques trop modernes, alors que, par définition, et elle en particulier, elle n'avait absolument aucune idée politique. C'est pas le propre du poète que de s'exprimer sur la réalité du monde, au sens politique du terme. Et à la fois par les intellectuels français, elle était jugée comme exclusivement comme russe blanche. Ce qui était à la fois vrai et faux, enfin, c'est quelque chose qui n'avait, selon elle, pas d'importance.
Il y a un côté maudit, en fait. Il y a une malédiction sur elle, qui est une sorte de... Justement, qui a une grandeur tragique, qui l'écrase, qui l'accable dans cette cuisine qui est son seul horizon. Et en plus, par la fenêtre, elle voit un arbre malingre, un bouleau, me semble-t-il. Et justement, cet arbre qui ne réussit pas, et ça, c'est en lien avec les racines, elle ne réussit pas à s'enraciner comme cet arbre malingre dans le jardin de la banlieue de Clamart. J'ai vu un parallèle qui me semble évident.
Elle avait prédit d'être toute sa vie en marge de toute chose. Et c'est ça, justement, c'est la petitesse d'esprit, le gris de ces marges. Là, elle parle de la banlieue ouvrière des années 30. Donc, c'est effectivement une image assez tragique. Mais elle est plus que géographiquement, elle est vraiment en marge des courants politiques de son époque, de la société intellectuelle, artistique de l'époque, où que ce soit.
À l'instant, c'était Simon-Pierre Hamelin enregistré alors qu'il était en résidence d'écriture dans Lyon à la Maison Jules Roy à Vézelay, une émission diffusée le 8 mai de l'année dernière, où il était donc question du destin et de l'exil de la poétesse russe Marina Tsvetaïeva. Si vous avez manqué le début de cette émission, eh bien vous la retrouvez dès à présent à l'écoute via le site d'archives de l'émission www.yannickpetit.fr. Vous y retrouverez également les noms des auteurs, les références de leurs ouvrages et les maisons d'édition. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 29 janvier, toujours à 11h, bien sûr sur Radion, pour un entretien avec Daniel Picouli qui vient de faire paraître chez Albin Michel un nouveau roman intitulé « Les larmes du vin ». Je vous lis juste la quatrième de couverture du roman de Daniel Picouli. Intronisé chevalier du Tadevin en grande cérémonie, Daniel Picouli, le narrateur de cette histoire, est invité à faire un discours sur le vin, trésor national et mystère absolu. Le défi est grand pour le cancre des cépages. Ce qui pouvait apparaître comme un malentendu devient alors l'occasion de revisiter son itinéraire singulier et de s'interroger sur la place de ce liant social dans nos existences. De son enfance à aujourd'hui, il convoque de tendres souvenirs et des anecdotes cocasses dont on savoure le nectar. L'auteur se fait avec humour et fantaisie l'observateur des effets du vin sur chacun d'entre nous, esquissant une sorte de petite philosophie en forme d'éloge de la quête, de la mesure et de l'équilibre. Un bonheur, nous dit la quatrième de couverture donc du dernier roman de Daniel Picouli, Les larmes du vin, qui sera donc dans ce wagon livre samedi 29 janvier prochain sur l'antenne de Radion. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain.